BFM Business, BFM Bourse, les pros des cryptos.
Parce que l'avenir est l'endroit où l'on passera tous le restant de nos jours et que la blockchain en est une fraction importante. Les crypto-monnaies, les pros des cryptos, chaque vendredi sur BFM Business. Xavier Fenot avec nous donc pour Interactive Trading. Owen Simonin, bonjour Owen, alias Hacheur et sa chaîne YouTube, le YouTuber qui cartonne sur les cryptos. Claire Balva nous rejoint également désormais chaque vendredi. Bonjour Claire.
Bonjour.
Et bienvenue sur le plateau de BFM Business, la cofondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain et crypto chez KPMG France. Voilà, c'est CroPro des cryptos qui vous accompagne chaque semaine pour vous faire part de ces évolutions dans l'univers de la blockchain, l'univers de cette finance nouvelle qui est en train d'émerger et puis le potentiel des différentes crypto-monnaies. Xavier, justement, on a eu peu de mouvements là sur les cryptos cette semaine après la panique d'il y a un mois. On a l'impression que c'est le calme après la tempête. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce calme apparent sur les cryptos cette semaine?
Comme vous l'avez dit, finalement depuis un mois, il ne s'est pas passé grand-chose. On l'avait dit d'ailleurs dans cette émission. Des points bas de moyen terme ont été constitués, ce qu'on appelle des grosses zones de support. Elles ont été travaillées. Elles continuent d'ailleurs à l'être sur certaines cryptos, d'autres moins. Mais le marché ne peut pas oublier, c'est ce qu'on avait dit, du jour au lendemain, ce qui s'est passé, ce mouvement de panique qu'on a connu il y a un mois. On a eu des rebonds quand même de l'ordre de 30% sur le Bitcoin, de plus de 50%, voire même des x2 sur certaines cryptos. Donc, on arrive sur des zones de résistance à court terme qui sont en train d'être constituées, ce qui permet finalement de laisser l'opportunité de sortir pour les plus expérimentés qui ont payé le trou en sortant avec de belles performances. Et ceux qui sont un petit peu fait peur justement dans ce moment de panique, se permettre de reconsidérer leur exposition de manière générale. Donc pour le moment, on est dans ce qu'on appelle des phases de range, des phases de latéralisation. C'est pas inquiétant, non, mais il faudra quand même pas s'étonner d'aller revoir peut-être les derniers plus bas. Faut y être prêt. Et là où ça deviendrait justement un peu plus inquiétant, c'est si en retournant sur les derniers plus bas qu'on a réalisés sur l'ensemble des cryptos, si on n'a pas de réaction positive. Pour le moment, je vois toujours le verre à moitié plein à moyen terme, même si c'est vrai qu'à court terme, pour le moment, on n'a aucun flux majeur important qui permet de valider la reprise de ce qu'on appelle un bull run.
Oui, le Bitcoin n'était pas la plus dynamique des cryptos ces derniers mois. Comment est-ce que vous le sentez désormais sur cette dynamique du Bitcoin face aux autres crypto-monnaies?
Alors c'est vrai qu'il a repris un petit peu de hauteur quand même. Il avait pris 30% depuis ses plus bas. C'est vrai que dans cette période de flottement, peut-être qu'il retrouve un petit peu son statut d'or numérique. Alors on le voit avec le ratio, ce qu'on appelle le ratio ETH-BTC, donc l'Ethereum face au Bitcoin, qui s'est replié. La dominance du Bitcoin qui est repassée à 45%, l'Ethereum qui est repassé en dessous des 17%. Et c'est vrai que je pense beaucoup de monde attend que le Bitcoin, et tout le monde a vu cette zone de résistance des 40-42 000 pour se dire « Ok, on repasse au-dessus de cette zone-là ». Et du coup, les probabilités de revoir les 30-32 000 sont maintenant écartées pour de bon. Donc, il profite peut-être un petit peu de cette période d'hésitation, mais il faut rappeler effectivement, comme vous l'avez dit, que depuis 3 mois, c'est pas le plus performant. On est dans ce qu'on appelle une alt season. Donc, pour le moment, on a une grosse zone de résistance, un gros rempart sur les 40-42 000. Il n'y a pas vraiment de catalyseur pour le moment, d'autant plus que, comme on l'a vu sur les marchés traditionnels juste avant, c'est vrai que la Fed inquiète un petit peu aussi peut-être un peu les marchés aussi crypto.
Oui, alors la situation semble coincée. Vous dites les gens attendent, ça va durer longtemps, Xavier. Et si les gens attendent, qu'est-ce qu'ils doivent faire en attendant du coup?
Oui, ça peut durer encore quelques semaines. On avait déjà dit, ça peut peut-être même durer plus longtemps. C'est vrai que il y a un changement brutal de psychologie, des zones de résistance qui sont constituées. Pour les passer, il faut passer ces gros niveaux de résistance que tout le monde a, les 40 000 sur le Bitcoin, les 2 900 $ sur l'Ethereum. D'ailleurs, c'est plus propre techniquement. Et plus largement, si on regarde la capitalisation totale des cryptos, on est clairement là aussi dans un rang. Donc, on le savait. Alors, ce qu'il faut faire, continuer à travailler à court terme pour ceux qui le peuvent peut-être sur une partie de son portefeuille. Ça permet finalement de profiter de replis de 10, 20, 30%, d'acheter proche des bas de range, d'alléger, voire de vendre proche des hauts de range jusqu'à ce qu'on passe à une autre phase de marché. Ça permet de faire travailler sur une petite partie de son portefeuille tout en gardant des positions à moyen terme. Si bien évidemment, on est positif sur l'ensemble du marché des cryptos. Pour éviter d'être scotché devant les écrans, on privilégie justement de placer des alertes. Ça évite de subir émotionnellement ces phases de hausse et ces phases de baisse de 20-30% et de passer à l'action justement quand il se passera vraiment quelque chose, d'éviter de s'impatienter et de finalement passer des ordres alors qu'il ne se passe finalement pas grand-chose depuis un mois.
Voilà pour le potentiel des crypto-monnaies. On rappelle, hein, pour tous ceux qui nous suivent sur BFM Business, si vous souhaitez investir dans les crypto-actifs, bien sûr, n'y placez que l'argent dont vous n'avez pas besoin. C'est de la diversification, on est tous d'accord là-dessus. Alors parallèlement, l'écosystème continue quand même de se constituer et c'est spectaculaire. Cocorico, pour une fois, cocorico, Claire. On a eu cette sacrée nouvelle cette semaine pour l'écosystème crypto français, l'annonce d'un partenariat entre les futurs champions d'Europe de foot, l'équipe de France, et Sorare, cette start-up qui émet des NFT. C'est une étape de plus, peut-être importante, vous allez nous le dire, dans la constitution d'une France dans le coup, sur le front des cryptos. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler ce qu'est un NFT, puisque Sorare émet des NFT?
Oui, les NFT, c'est un type de jeton qui fait beaucoup de bruit depuis quelques mois. C'est ce qu'on appelle un jeton non fongible. La différence avec un jeton classique comme le Bitcoin ou même n'importe quel token qu'on peut trouver, c'est que c'est un jeton qui ne va pas être divisible et surtout qui va être unique. Si je simplifie, quand on est sur Bitcoin, un Bitcoin égale un autre Bitcoin. Un NFT n'est pas égal à un autre NFT. Et donc là, en l'occurrence, Sorare émet des cartes de joueurs de football. Et donc, une carte n'est pas la même qu'une autre carte. On a des cartes différentes qui ont des numéros différents avec des joueurs de foot différents. Et donc, ces NFT, ils circulent sur blockchain, en l'occurrence sur la blockchain Ethereum. Et donc, ils ont les mêmes caractéristiques que les cryptoactifs, que les crypto-monnaies. Donc, ils sont liquides, ils sont nativement mondiaux. Ils peuvent être achetés et vendus potentiellement sur des plateformes d'échange à terme. Donc, c'est vraiment des outils extrêmement intéressants pour gérer de la rareté numérique. Et il y a d'autres applications dans le jeu vidéo, même dans le milieu de l'art plus particulièrement.
Oui, c'est non substituable en quelque sorte, non fongible.
Exactement.
Voilà, c'est le terme. Et donc, on a ce partenariat de Sorare, vous dites?
Moi, je dis Sorare, mais bon, Sorare marche aussi, je crois.
Oui, c'est peut-être latin d'ailleurs. Donc, ce partenariat de Sorare, on va le dire comme ça, avec l'équipe de France, que propose Sorare avec ses NFT, Owen? Comment ça marche tout ça?
Alors, ce qu'il propose, c'est que chaque NFT soit la carte d'un joueur. Et ce NFT, en plus d'avoir un côté rareté, donc on peut déjà constater le côté un petit peu à la Panini, on doit collectionner et avoir un maximum de joueurs, il y a ce côté rareté et ce côté collection, mais ces NFT ont également un côté utile, puisque sur la plateforme, directement sur le site internet, les gens vont pouvoir constituer leurs équipes. Une fois qu'ils ont constitué des équipes avec des cartes et des joueurs, ils vont pouvoir participer à des tournois et des concours, gagner des points, visualiser les matchs qu'ils jouent avec leur équipe, et toujours essayer d'en collecter encore plus, de gagner d'autres joueurs pour améliorer leur équipe. Donc il y a vraiment ce côté rareté et donc collection, mais également le côté communautaire et utilité de ces NFT pour la constitution d'une équipe que l'on va faire jouer et que l'on va challenger à travers ce jeu.
Et quel est l'intérêt pour l'équipe de France? Donc ce partenariat annoncé cette semaine de Sorare avec l'équipe de France, l'intérêt pour l'équipe de France d'avoir un partenariat avec ce groupe-là?
Il y a deux intérêts. En fait, il y a un premier intérêt, c'est du fan engagement. Et quand vous parlez avec des joueurs de Sorare, ce qu'ils vous disent, c'est les émotions sont décuplées quand on regarde un match de l'Euro, quand on a en plus des cartes des joueurs, hein, puisque l'enjeu devient double. C'est-à-dire qu'à la fois, on soutient son équipe, mais en plus de ça, potentiellement, on va gagner des choses dans le jeu. Donc ça, c'est le premier aspect qui est encore décuplé parce que certains joueurs de l'équipe de France étaient déjà sur Sorare, mais d'autres joueurs n'avaient pas encore leurs cartes. C'est le cas d'Antoine Griezmann, par exemple, qui fait là son apparition sur Sorare. Et puis le deuxième aspect, c'est un aspect financier. Alors, sans préjuger du contrat que l'équipe de France a avec Sorare, le modèle économique de Sorare, c'est donc d'émettre des cartes. Donc, ils vendent ces cartes, ils ont des revenus sur ces cartes. Mais derrière, il y a une rétro-commission, généralement, qu'ils redonnent aux clubs. Et donc, pour les clubs, c'est du bénéfice, tout simplement, puisqu'ils génèrent du revenu grâce à ça.
Donc, on peut imaginer que tout cela va continuer de se développer. C'est le début?
Complètement. Là, c'est la première équipe nationale qui arrive sur Sorare, mais on peut tout à fait imaginer que, voilà, à court terme ou à long terme, on ait d'autres équipes nationales qui arrivent sur Sorare.
Cet écosystème qui continue de se constituer donc, et ça peut passer aussi par les futurs champions d'Europe, à savoir l'équipe de France. On a aussi, tiens, au rayon des bonnes nouvelles, puisqu'on est dans le côté positif autour de cet écosystème, la bonne nouvelle d'il y a quelques jours, évidemment, c'est le nouvel Eldorado qui est devenu le Salvador. Vous savez ce que ça veut dire en espagnol, Salvador? C'est le sauveur, voilà. Beaucoup de fans de crypto voient peut-être le Salvador comme le nouveau sauveur depuis que le Salvador a accepté le Bitcoin en tant que monnaie légale. Comment les grandes institutions financières réagissent-elles d'ailleurs à ce coming out du Salvador vis-à-vis des cryptos et du Bitcoin?
Très différemment les unes des autres, en fait. On a toutes les nuances de réactions. Il y a eu des réactions très positives, par exemple, de la KBI, donc la Banque d'Amérique centrale, qui semble soutenir le Salvador et qui a accueilli ça comme une bonne nouvelle et qui a dit qu'ils allaient aider justement le Salvador dans leur démarche. C'est pas le cas de tout le monde. La Banque internationale des règlements, par exemple, a fait plutôt savoir qu'ils étaient intrigués. Et puis, le FMI a eu une réaction voilà, plus négative encore en parlant de risques macroéconomiques. Donc les réactions sont assez diverses. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que ça force finalement tout le monde à se positionner. Et il y a déjà certains politiciens dans des pays voisins, notamment en Amérique centrale et en Amérique du Sud, qui disent que leur pays devrait aussi envisager ce type de procédure. Pour l'instant, ça reste très en amont. Mais ce qu'on constate déjà, c'est que ces pays ont des caractéristiques communes avec le Salvador, c'est-à-dire qu'ils ont une population peu bancarisée, ils sont très dépendants au dollar, et puis ils sont très dépendants aussi des flux d'argent de leurs expatriés. Donc tous ces pays finalement qui ont des caractéristiques communes pourraient être amenés à procéder à ce type de, voilà, de nouvelles lois pour instituer le Bitcoin comme monnaie légale.
Le Salvador a-t-il ouvert la boîte de Pandore ? L'avenir nous le dira, bien évidemment. En tout cas, la Banque mondiale refuse de fournir de l'aide dans la mise en place technique du paiement Bitcoin au sein de ce pays, le Salvador. Est-ce que c'est grave, docteur Owen ? Quelles sont les implications possibles dans la mesure où la Banque mondiale refuse de fournir une quelconque aide au Salvador ?
Alors, en réalité, la vraie portée de cette action-là, c'est de montrer qu'il y a une vraie réflexion par des très grosses entités et organismes financiers. Ça a de la portée. Globalement, le fait que la World Bank ne veuille pas soutenir l'installation de la technologie Bitcoin et sa prise en main par les citoyens au Salvador, ça va ralentir un peu l'adoption du Bitcoin. Mais pour le coup, il y a différentes startups et entreprises qui ont bien prévu de permettre au gouvernement du Salvador de proposer des solutions de paiement à ses citoyens. Donc, pour le coup, sur l'application claire de la mise en circulation, on va dire, du Bitcoin au Salvador et l'accessibilité de tout le monde, ça va ralentir un petit peu, mais ça n'aura pas un gros impact. Là où je rejoins totalement Claire sur son discours, c'est qu'on commence à avoir du coup des vraies grosses entités, le Fonds monétaire, attention, international, et également la World Bank, mais des grosses entités financières qui commencent à se dire que s'il y a un effet domino, si on a des petites structures des entreprises qui commencent à s'intéresser à ça, mais également des pays qui eux commencent à en avoir besoin réellement et qui essayent d'accéder à ce genre de technologie financière, finalement, on va avoir des vraies questions qui vont être posées et une réflexion peut-être mondiale, en tout cas un effet macroéconomique et sur tout ce que ça peut engendrer d'avoir réellement des pays qui se tournent vers le Bitcoin, puisqu'on a également du coup le Panama, mais également le Paraguay. On a vraiment pas mal d'endroits et de pays qui commencent à se dire « Ok, pour certains, c'est une évolution. Pour nous, ça permettrait réellement de régler des problèmes qu'on n'a pas encore réglés dans notre pays. » Et donc là, les questions vont commencer à arriver les unes après les autres, ainsi que des organismes financiers qui vont l'accepter et qui seront totalement volontaires, mais d'autres qui vont se poser des questions sur ce que ça va remettre en cause, finalement.
Oui, c'est quand même frappant de voir que les cryptos, certains veulent absolument et espèrent absolument leur monter en puissance pour quelque part se désindexer des États, des institutions financières, mais il faut quand même demander la permission aux parents, là, en ce moment, c'est pas évident. La permission des parents, on l'a pas complètement encore, Claire.
La vraie question, c'est est-ce que les parents vont changer d'avis rapidement ou est-ce qu'ils vont mettre un peu plus de temps à changer d'avis, mais ça, seul l'avenir nous le dira.
Bon, voilà où l'on en est en tout cas dans la montée en puissance de ces cryptoactifs. Les entreprises aussi auront un rôle à jouer, bien sûr. On parle beaucoup des États et des institutions financières mondiales là, mais les entreprises vont avoir un rôle crucial si on souhaite que les cryptoactifs se banalisent. Tesla et Elon Musk avaient un peu illuminé le printemps, et puis l'orage de chaleur, ce coup de tonnerre lorsque Elon Musk a indiqué reprendre ses distances avec le Bitcoin. Mais Tesla semble quand même avoir ouvert une voie. D'autres entreprises s'intéressent à leur tour à ces thématiques. On a MicroStrategy notamment qui a fait son coming out également cette semaine. MicroStrategy, et on en a parlé sur BFM Business, a confirmé une vente de titres de créances pour 500 millions de dollars pour acheter des bitcoins. 500 millions de dollars. Il a donc relevé le montant de ces titres de créances parce que la demande était finalement plus forte qu'attendue. On le disait, les entreprises seront la clé de diffusion des cryptoactifs. Qu'est-ce que cette opération de MicroStrategy nous dit de son regard sur le bitcoin, Claire?
Alors, vous parlez de coming out, mais en fait, pour l'écosystème crypto, c'est pas vraiment un coming out, parce qu'on sait depuis longtemps que le PDG de MicroStrategy, donc qui s'appelle Michael Saylor, est un vrai convaincu du Bitcoin. Et quand il avait acheté les premiers Bitcoins avec MicroStrategy, il y a de ça quelques mois, il avait parlé du dollar comme d'un glaçon qui fond, ce qui était très cash. Et il avait justement justifié l'achat de Bitcoin en disant finalement les monnaies traditionnelles sont, en tout cas le dollar est en train de perdre de la valeur, et donc il voyait Bitcoin comme une réserve de valeur à ce moment-là. Et la suite lui a plutôt donné raison, puisqu'on voit qu'aujourd'hui il y a une inflation sur le dollar et que le cours du Bitcoin a de surcroît largement monté après son investissement. Donc l'avenir lui a donné raison. C'est vraiment un passionné. Hein. On le voit beaucoup sur les réseaux sociaux militer pour Bitcoin. Et on le voit même voir certaines nouvelles qui peuvent paraître négatives, comme les récentes restrictions de la Chine sur le minage, comme des opportunités. Et finalement, lui, ce qu'il dit, c'est que ces restrictions de la Chine sont une opportunité pour Bitcoin de se décentraliser encore plus. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui est très positif sur le sujet et très convaincu. Et on voit aujourd'hui que MicroStrategy devient carrément un ETF Bitcoin, puisque quasiment la moitié de la valeur de MicroStrategy maintenant est basée sur le Bitcoin qu'ils ont acheté et le cours du Bitcoin. Donc, c'est extrêmement intéressant de voir ces initiatives-là.
Et les patrons, les grands Manitou de MicroStrategy, justement, qu'est-ce qu'ils pensent? Alors, du Bitcoin, on le voit, ils en pensent manifestement le plus grand bien, mais qu'est-ce qu'ils pensent aussi des autres crypto-monnaies, de l'Ethereum par exemple, Owen, qui est la deuxième plus grosse crypto?
Alors, ils pensent en effet que toutes les autres crypto-monnaies vont prendre leur place. Alors, pas toutes, évidemment, mais que chaque crypto-monnaie qui a un objectif bien précis et qui lui est propre pourront venir et apporter des solutions dans le monde de la technologie en général. Particulièrement, en effet, l'Ethereum, qui a déjà énormément d'applications et qui pourrait, pour reprendre les mots encore une fois de son CEO, qui pourrait à terme remplacer littéralement certains établissements financiers grâce à des protocoles totalement décentralisés et totalement agnostiques. Donc, en effet, c'est un convaincu des crypto-monnaies. Le Bitcoin, toujours en première ligne, bien sûr, ils en détiennent presque 100 000, pour vous dire à quel point c'est une vraie grosse position. Et pour aller encore plus loin, Claire avait totalement raison, c'est un ETF Bitcoin. Et il explique lui-même que c'est dans sa stratégie, car certaines personnes veulent investir dans les crypto-monnaies, mais ont peur, notamment les grosses institutions, de la régulation qui est encore en cours et pas totalement définie en fonction des pays. Et donc préfèrent investir dans MicroStrategy, puisque c'est une entreprise qui, à la fois, une très grosse partie de sa valorisation dépend des crypto-monnaies qu'ils détiennent, mais également qu'il y a une activité et donc des résultats d'exploitation. Et donc, c'est investir dans les crypto-monnaies, mais pas que.
Ouais, l'une des grosses actualités de la semaine, donc cette annonce MicroStrategy qui a confirmé une vente de titres de créances pour 500 millions de dollars contre 400 millions de dollars initialement, mais au vu de la demande, MicroStrategy a donc augmenté la quantité achetée. Tiens, on parle là des crypto-monnaies, mais évidemment tout cela est adossé au blockchain. Owen, toujours à l'instar d'Apple, il semble qu'Amazon recherche un profil blockchain.
Tout à fait. Alors, il y a déjà eu beaucoup de choses sur Amazon, hein. Notamment en février, il y avait une rumeur comme quoi ils allaient sortir une crypto-monnaie alternative au Bitcoin. Il y a de ça 2 ans, si je dis pas de bêtises, ils ont également travaillé sur le protocole de sécurisation du Bitcoin, hein, ce qu'on appelle le proof of work, les machines qui consomment de l'électricité pour sécuriser la blockchain. Et ils ont essayé de voir comment est-ce qu'ils pouvaient optimiser encore plus ce protocole pour qu'il soit moins énergivore, etc., etc. Donc, il y a déjà eu des travaux. On sait que ce géant s'y intéresse. Mais là, il a annoncé, un petit peu comme Apple, du coup, il y a quelques semaines, s'intéresser à avoir besoin d'un nouveau chef de produit qui aurait des compétences technologiques, un historique précis sur la blockchain et, si possible, une vraie connaissance de ce qui se fait dans le monde, enfin une vraie connaissance de l'état de l'art, de la finance décentralisée, pour laisser peut-être sous-entendre ou non qu'Amazon s'intéresserait à la finance décentralisée et à l'avenir de ce monde financier.
Bon, Amazon qui peut-être est en train de rechercher un profil blockchain désormais.
Oui, c'est pas surprenant. Claire. En fait, Amazon, c'est une marketplace, c'est du e-commerce. Donc, vous imaginez les impacts des crypto-monnaies pour Amazon, les impacts de voilà ce que ça veut dire pour les moyens de paiement, pour eux, les opportunités que ça leur offre aussi, parce que c'est un tel géant qui pourrait se positionner sur le secteur financier. Donc, moi, ça me surprend pas du tout de voir ce type d'offre arriver sur le marché.
Et on a des questions de l'auditeur. Vous êtes nombreux à réagir régulièrement à ce rendez-vous, à nos rendez-vous sur BFM Business. C'est une auditrice, Alice, qui nous demande quelle crypto-monnaie présente le meilleur potentiel de valorisation désormais. Elle trouve qu'on parle trop de Bitcoin. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a des centaines de crypto-monnaies, c'est ça, Claire? 2000?
Même des milliers. Ça ne les rend pas toutes intéressantes. Alors, j'ai pas envie de faire de conseils en investissement. Non. C'est compliqué, mais.
C'est pour Xavier, ça. C'est pour Xavier Fenot. On lui refile la patate chaude. Xavier, quelle crypto présente le meilleur potentiel de valorisation pour vous?
J'ai sorti ma boule de cristal, Guillaume. Non, on vient de parler de l'Ethereum. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même des challengers, notamment à la finance décentralisée. On la travaille sur l'IVT depuis le début de l'année. C'est là où elle a commencé à être vraiment sur le feu des projecteurs. Elle est passée 13e crypto au monde, valorisation 10 milliards de dollars. C'est Solana. Elle a fait x15, en tout cas depuis le début de l'année. Elle est montée jusqu'à x30 par rapport au plus haut d'il y a un mois. Délai de traitement, 50 000 transactions par seconde. L'Ethereum, je crois qu'on est à peu près autour de 20. On a 250 projets à peu près qui sont indexés sur sa blockchain. Donc, par exemple, Oxygen, ça permet d'emprunter des actifs et du coup de les contractualiser au travers de la blockchain. On a également des stablecoins que tout le monde connaît, qui sont intégrés à sa blockchain, notamment le Tether, l'USD Coin. Et elle vient de lever 314 millions de dollars. Alors, pour la petite histoire, hein, c'est très exactement, c'est le chiffre fois pi fois 100 millions. Ça permet de créer, en fait, ça va leur permettre de créer un studio d'incubation pour les applications et les plateformes sur Solana. Alors, comme vous venez de le dire, hein, c'est pas un conseil en investissement, hein, surtout que tout le monde puisse regarder de son propre cherche et aller à la source véritablement. On est autour de 36 dollars sur Solana, 27-28 dollars. C'est un niveau technique, une très belle zone technique qui a été constituée depuis le mois d'avril, depuis la panique acheteuse qu'on a fait. On met quand même une alerte sur les 43-44 dollars, comme sur l'ensemble de crypto, pour justement ne pas louper le train si jamais on a un bull run qui est en train de se remettre en place. Elle a bien performé depuis le début de l'année, comme je vous l'ai dit, fois 15 depuis le début de l'année, fois 30 au plus haut, mais on estime en tout cas que c'est pas fini.
Xavier Fenot, merci beaucoup. Solana, donc, cette crypto-monnaie qui pour vous présente un beau potentiel. Vous le disiez, c'est pas un conseil d'investissement, et on rappelle à tous ceux qui nous suivent que les crypto-monnaies, c'est vraiment de l'argent que l'on place, dont on n'a pas besoin par ailleurs. C'est de la diversification. Évidemment, ça, c'est la base de tout. Merci beaucoup à tous les trois. C'était votre première. Claire, merci de nous avoir rejoints.
Merci pour l'invitation.
Et on est ravis donc de vous accueillir désormais chaque semaine dans les pros des crypto. Claire Balva, cofondatrice de Blockchain Partner, directrice Blockchain Crypto chez KPMG France. Merci beaucoup Owen, chaque vendredi avec nous. Merci Owen. Merci pour votre fidélité également. Owen Simonin alias Asher et sa chaîne YouTube, et Xavier Fenot qui nous accompagnait, qui nous accompagnera aussi de plus en plus régulièrement, trader et coach pour Interactive Trading. Bon week-end à tous. Le CAC 40 est toujours en baisse d'1,3%. On se reconnecte à la séance du jour dans un instant. Le club à suivre juste après la pause. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.